Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et au sommaire aujourd'hui, les LGBT, la situation des LGBT dans le monde.
Et oui, lesbiennes, gays, bi, transsexuels et intersexes, 36 millions de personnes en danger de mort, plus de 400 millions victimes de discrimination, ce sont les estimations d'un rapport international qui va faire débat, qui doit servir à faire débat, alors qu'en France, le sujet des discriminations et violences peine à trouver son audience médiatique. La crise humanitaire serait mondiale et oubliée. On en parle avec vous, Michel Maietta. Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être venu ce matin. Vous êtes directeur de recherche et directeur de cours à l'IRIS. Il y a eu ce débat la semaine dernière sur la question. Stigmatisation sociale, défaut de protection et criminalisation juridique et souvent violence physique. En fait, toutes les caractéristiques d'un ciblage, mais d'abord pour une population très dispersée et à la différence d'autres crises, elle est identifiable, non ?
Tout à fait. Une crise humanitaire, c'est en fait un événement, une série d'événements qui menacent une communauté ou un groupe de personnes. C'est ça la définition d'une crise humanitaire. Alors souvent, vous l'entendez, la crise humanitaire au Yémen, comme on l'entend ce jour-ci, ou éventuellement la crise des Rohingyas. On a besoin de spécifier le lieu géographique. Le problème avec la crise humanitaire LGBTI, c'est qu'on a affaire avec une population qui est diffuse. Cette population, elle est mixte, elle est mélangée même parmi des populations victimes déjà de crises humanitaires, donc qui sont doublement vulnérables, comme la crise migratoire qui est en train de vivre actuellement l'Europe. Et parmi cette population, il y a une population LGBTI qui est encore plus vulnérable. Donc il s'agit bel et bien d'une communauté, d'un groupe de personnes dispersées dans le monde. Et aujourd'hui, 36 millions, c'est le chiffre que nous estimons. Et c'est équivaut, vous imaginez, à la population du Canada, qui aujourd'hui ne peut pas accéder à la santé, par exemple, à la sécurité, à cause de leur orientation sexuelle.
Du Canada ou du Rwanda et de la Somalie réunis, dit-on aussi. Alors justement, ce chiffre de 36 millions, disons, stable, 400 millions autres qui sont victimes de discrimination, pour une population, est-il dit dans le rapport, que vous avez estimé, pouvant varier entre 19 millions et 1 milliard d'habitants, alors qu'on avait ce chiffre global de 10% de la population qui en est depuis les années 50.
C'est l'enjeu, en fait, pour cette crise humanitaire oubliée, c'est la visibilité de cette population. On en parle pas parce qu'on ne peut pas y associer un chiffre. Les rapports auxquels on fait référence au plus souvent, c'est des rapports, le bien connu rapport Kinsey qui remonte aux années 50. En fait, il n'existe pas de véritable recherche faite sur une échelle mondiale pour estimer cette population. L'estimation que nous avons faite, notamment, on l'a extrapolée, on a pris tous les pays dans lesquels cette population peut souffrir d'une forme d'exclusion sociale et on arrive à effectivement ce chiffre de 400 millions. Mais quand on parle de crise humanitaire vraie et propre, moi je veux vraiment me focaliser sur ces 36 millions de personnes parce que c'est un chiffre qui est quand même abyssal. On a même du mal à la visualiser et toutes ces personnes en fait ne peuvent pas par exemple accéder à la santé pour une question de stigmatisation. Le lien entre accès à la santé et stigmatisation, il est très élevé. Aujourd'hui quand vous allez chez un médecin, vous y allez en confiance, vous pouvez parler de votre sexualité de manière assez libre. Mais une personne LGBT ne pourra pas. Dans un pays où, par exemple, l'homosexualité, on a la condamne à mort, par exemple en Iran, on n'a pas facilement accès, on ne pourra pas parler de notre sexualité en Iran.
Ouais, et justement, quelque chose d'assez remarquable aussi, c'est que même dans les pays où l'homosexualité est dépénalisée et où elle est même admise, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des petites, parfois, disparités dans la discrimination, mais des très gros effets, j'ai l'impression en tout cas. Par exemple, entre 4 et 6 % de chances de moins d'accéder à l'emploi ou sortir de la pauvreté aux États-Unis, mais ça donne en retour 2 à 4 fois plus de risques de se suicider que les 4,6% de la population
générale.
Tout
à fait, mais on l'a vécu aussi en France. Il faut pas... Les crises humanitaires, de toute façon, aujourd'hui, sont écosystémiques. Ce n'est pas la connotation géographique qui va les définir. Et ça, c'est un vrai enjeu, je pense, pour la communauté des humanitaires. Il faut redéfinir, en fait, l'espace d'une crise humanitaire. Mais vous avez oublié, ici en France, pendant le débat sur le mariage pour tous, on a eu SOS homophobie, nous a documenté, on a eu plus de 10% de taux de suicide parmi les adolescents français. C'est énorme. L'impact de la stigmatisation sur ce type de phénomène est très important.
Et alors, sans pouvoir dénombrer exactement, quels seraient les marqueurs de cette crise humanitaire aujourd'hui, s'apparentant ou à la différence des autres crises humanitaires? Est-ce que c'est les violences physiques tolérées socialement, l'exclusion sociale, on pourrait dire ordinaire, ou les politiques institutionnelles?
Écoutez, c'est simple. C'est très facile de vendre une image d'un enfant yéménite qui souffre de marasme. c'est clair, ça n'a pas le même impact, par exemple, d'un transgenre qui se fait abattre au milieu de la rue à Kampala. Pourtant, on a voilà, deux personnes qui sont en train de perdre leur vie au même instant. Ça ne va pas sensibiliser les mêmes personnes, ça ne va pas sensibiliser le même public, mais la question, c'est que les humanitaires, normalement, doivent cibler n'importe quel type de population qui ne peut pas accéder à la santé ou qui ne peut pas accéder à la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, pour les humanitaires, il y a un double enjeu. Véritablement reconnaître cette population parmi les plus vulnérables, déjà parmi les populations qu'ils ciblent, véritablement définir une politique en interne aussi pour accepter cette population. Les organisations humanitaires, comme n'importe quel type d'organisation, ne sont pas exemptes d'homophobie organisationnelle. Ça existe aussi. Et ça, c'est un vrai problème aussi qui doit être réglé. Mais il s'agit, nous, on tient vraiment au terme, il s'agit d'une crise humanitaire d'une grande ampleur sous laquelle on a vraiment besoin de saisir des outils comme l'agenda Leave No One Behind, qui a été défini à l'issue de la conférence d'Istanbul en 2016, à laquelle tous les acteurs humanitaires ont souscrit, qui doit nous permettre de atteindre ces objectifs de manière plus simple. Qu'est-ce que dit cet agenda? Mais on ne doit laisser personne derrière. Et particulièrement ces minorités, en fait, qui aujourd'hui vont souffrir d'une forme ou d'une autre d'exclusion sociale, voire de non-accès à la santé et de non-accès à la sécurité.
Alors on peut peut-être passer très rapidement sur la carte qui est d'ailleurs sur le rapport Yaran qu'on mettra en ligne avec ce qu'on pourrait appeler un genre de diagonale de la mort pour le dire comme ça, du Soudan jusqu'en Iran où les relations homosexuelles sont punies de mort, un genre de zone grise dans l'Est européen, mais surtout deux points un peu clés pour la protection des droits et l'action des ONG, l'Asie et l'Afrique, c'est un peu ça?
Oui, mais voilà, il y a 10 pays en fait qui condamnent à mort la pratique, par exemple, de l'homosexualité. Mais il y en a 71 qui criminalisent d'une manière ou d'une autre les populations LGBTI. Il n'y a que 25 pays en fait qui ils ont reconnu désormais le mariage homosexuel qui peut être utilisé comme un indicateur. Mais vous voyez, par exemple, il y a une corrélation très forte entre ces 25 pays et le degré de démocratie de ces pays. Et par exemple, il y a une corrélation très forte entre les 10 pays qui prévoient la peine de mort à cause de votre orientation sexuelle, en fait, ce sont tous des pays qui appliquent la charia. Voilà, c'est une réalité de fait.
Et alors, justement, parmi les difficultés, on pourrait dire nouvelles et anciennes des ONG, il pourrait y avoir la montée et la persistance de traditions religieuses, peut-être des politiques étatiques plus appuyées. On peut le remarquer aussi, je parlais de l'Afrique, c'est pas pour stigmatiser, mais on peut remarquer dans les articles une lente crispation sociale au Sénégal, par exemple, un durcissement des autorités en Ouganda récemment.
Oui, absolument. Alors, ça arrive par vagues. Ça fait partie des drivers qu'on a mis en exergue dans notre rapport. En anglais, on appelle ça du political scapegoating. En français, c'est le bouc émissaire politique. Cette population devient souvent le bouc émissaire de tensions politiques qu'on peut trouver dans un pays ou entre pays. L'enjeu, par exemple, aussi de certaines tensions d'aide au développement, comme dernièrement entre la Danemark et la Tanzanie. Ce qui est fondamental, c'est qu'il faut consulter la population civile. Donc les mouvements LGBTI qui se trouvent dans ces pays, parce qu'ils sont le premier concerné avant en fait d'entreprendre n'importe quel type de politique. Mais parmi ces drivers qu'on a mis en exergue, il y a aussi la représentation médiatique. Par exemple, mais dites-moi combien d'émissions vous dédiez à cette thématique LGBTI à France Culture. Mais c'est pareil pour la télévision. Normalement, cette population devrait être représentée de la même façon que n'importe quel type de minorité.
Donc il y a un travail de visibilité énorme, positive à faire.
D'acceptation aussi religieuse.
Et ce que vous dites, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas aussi, disons, une action un peu contre-productive des pressions ou même de l'action même des ONG sur le terrain? Là, je pense par exemple à la Tanzanie en 2016 qui a interdit aux ONG de distribuer du lubrifiant qui réduit les risques d'infection au VIH, ce qui veut dire que si elle avait persisté, ça aurait mis en danger les communautés relativement au pouvoir tanzanien.
Alors après c'est très complexe. On peut faire des raccourcis assez rapidement. Ce qui est fondamental, c'est vu que c'est une population qui n'a pas véritablement de fort appui au niveau local, elle peut être prise en otage dans n'importe quel type de tension politique ou d'agenda politique. Et c'est ça la grosse vulnérabilité sur laquelle nous on invite les acteurs humanitaires aussi à travailler, à prendre une position forte, courageuse. Il y en a très peu qui l'ont fait. Quand nous on a fait cet événement à Paris, il y avait très peu de dirigeants d'ONG qui étaient présent.
Et donc, les principales recommandations que ce rapport Yaran, puisque c'est son but, ferait aux ONG pour renouveler leur politique, ce serait quoi? Ce serait de coopérer entre ONG non LGBT, ONG LGBT, d'être plus critique envers leur soutien?
Alors, il y a un enjeu, il faut créer un pont entre ONG droits lhommistes et ONG humanitaires. L'enjeu, en fait, de toute cette population est un enjeu humanitaire. Aujourd'hui, on n'a pas les chiffres, mais les témoignages nous soulignent le fait qu'on a des LGBTI qui tous les jours meurent à cause de la stigmatisation et de la criminalisation, particulièrement dans ces 10 pays où ils sont contraints de se cacher de tout, de toute vie sociale, publique et de leur accès à la santé. Il y a un enjeu pour les ONG de remettre en question aussi leur politique en termes de ressources humaines. Par exemple, malheureusement, oui, il y a encore des ONG qui, dans certains pays, ne recrutent pas des couples homosexuels parce qu'ils ils savent pas comment gérer cette diversité.
Dans quel pays ?
Eh bien, là, je ne peux pas faire le nom de l'ONG, mais j'étais témoin d'un cas concret à Erbil, par exemple, d'une ONG qui a refusé qu'un couple homosexuel puisse prendre une position de cadre pour une de leurs missions, en prétendant des raisons sécuritaires qui n'existent pas. Par exemple, le CSR a des politiques de recrutement RH autour de la population LGBTI qui sont exemplaires.
Donc des résistances du côté des ONG elles-mêmes, et puis dernière chose, des ONG qui sont prises pour cible de plus en plus aussi par des politiques ou des politiques d'encadrement ou d'interdiction de la promotion de l'homosexualité. Là, je pense à la Russie. Quelles possibilités elles ont de lutter contre ça?
Mais en Russie, il y a des militants LGBTI qui continuent à leur faire leur travail, et ils le font de manière très un excellent travail de terrain, parce qu'ils connaissent leur contexte et savent comment, quel type de levier il faut faire. Mais c'est aussi la recommandation qu'on fait en général avec les ONG, c'est que si vous ne connaissez pas un contexte, vous ne connaissez pas une population, vous devez faire avec les populations civiles, les personnes qui sont concernées et sont au centre, en fait, aussi de la façon dans laquelle vous menez vos propres actions sur le terrain. Et particulièrement sur ce terrain-là, LGBTI, qui est très délicat et qui peut, à un moment ou à un autre, tomber dans une manipulation politique.
Bien sûr, on pourra retrouver tout ça sur le site internet de France Culture. Merci beaucoup, Michel Maietta, directeur de recherche et de cours à l'IRIS, et bonne journée.